du coq à l'âne.
Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Retour à Briançon chez notre ami Jean-Michel Tirol au relais d'Alsace pour ce coq à l'âne numéro 604. Eh oui, déjà 604 numéros du coq à l'âne. Avec autour de la table Jean-Paul Grolier qui est de retour. On l'avait raté la dernière fois. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour.
Nous avons Philippe Stockley, évidemment maître de cérémonie, qui est là.
Bonjour.
Et notre invité, c'est Guillaume Le Bigot. Bonjour.
Bonjour.
Alors Guillaume Le Bigot, hein, Philippe qui était impatient de te recevoir va te tirer le portrait. Mais d'abord, moi je voulais parler de quelque chose, mais très rapidement, parler du Walter Keir Theatre sur Broadway, un peu plus de 900 places, un petit coin intimiste pour voir le boss, c'était vendredi dernier, alors... Tu étais aux États-Unis la semaine dernière et tu as été voir le boss, et tu es allé aux États-Unis que pour voir le boss, Philippe Stockley?
Oui, non. En fait, c'est un cadeau de ma famille pour mes 60 ans. Et quand j'ai regardé les dates, au milieu, il y avait Springsteen dans effectivement un théâtre de 600 places, en plein Broadway.
Ouais.
Bon, Bruce Springsteen, c'est la méga star aux États-Unis, peut-être un peu moins en Europe.
Oh, il est quand même.
Mais un gars comme ça qui fait d'habitude des concerts de 30, 40 000 personnes, se retrouver devant 600 personnes. C'était magique. Enfin, j'y suis allé, sincèrement.
C'est... Bah oui, j'imagine.
Les poils se sont dressés sur mon corps pendant.
J'imagine quand on est fan, réussir à voir, ouais, effectivement, dans le, ouais, côté intimiste d'un petit, oui, théâtre. Ouais. Il était en acoustique, je suppose.
Complètement.
Il était tout seul, non? Il était avec une petite formation?
Il
avait quelqu'un avec lui?
Soit à la guitare, soit au piano. Il y a sa femme.
Alors, c'est sa femme qui était là.
C'est ça, qui vient le rejoindre pour deux chansons. J'ai lu quelque part que. Seulement 1% des gens qui ont cherché à avoir des places à ces concerts
ont pu avoir des places. Voilà. Jean-Paul, ça te parle, toi, Bruce Springsteen, le boss?
Oui, j'aurais bien aimé y aller, mais il ne m'a pas proposé, donc c'est trop tard.
Et alors, une question, bah, Guillaume, puisque évidemment, c'est notre invité. Musicalement, ça parle, Bruce Springsteen, ou alors c'est autre chose?
Non, ça parle. C'est même mon époque, ouais.
Ah ouais, ouais,
en fait, à 20 ans, on écoutait ça. Ouais.
Alors, le portrait de Philippe.
Bonjour Guillaume, et bienvenue au coq à l'âne version Briançon. Autant que je mettre les pieds dans le plat de choucroute sans attendre. Quand j'ai annoncé à quelques personnes que nous recevions Guillaume Le Bigot, patron des Chalets Bérou et président des Diables Rouges, j'ai entendu « Quoi ? Mais t'es fou ! Guillaume Le Bigot à la radio ? Mais tu aimes les Blancs ou quoi ?»
Sympa.
Petite pause dans ce portrait qui part plutôt mal. Blanc en radio, ça veut dire qu'il y a des silences. C'est dingue, aujourd'hui, il faut continuellement faire attention à ce qu'on dit. Il me faudra donc tourner 7 fois ma langue dans la bouche avant de parler, que j'y aille de préférence par 4 chemins, que j'évite de faire ni une ni deux, que j'aurai intérêt à couper les cheveux en 4, et surtout que je n'aille pas chercher midi à 14h. Mais c'est vrai que deux précautions valent mieux qu'une, qu'il vaut mieux manger 5 fruits par jour, et que pour finir, la paire, il n'y en a pas deux. Guillaume, je te vois inquiet ou rassuré, je ne sais pas, en train de dire... Mais il est en train de faire mon portrait, il parle pas de moi. Décaté, comme diraient les jeunes en langage SMS. Enfin, les jeunes, façon de parler. Thierry, patron d'Alpe 1, ici présent. Par exemple, tu n'es pas si jeune et tu utilises souvent dans tes messages sur Facebook, Instagram, Twitter, dans tes messages SMS et autres messengers, sans oublier ton WhatsApp. Tu utilises souvent l'expression MDR.
Oui.
Expression qu'au début, je prenais pour un gros mot sans voyelle.
Oui,
non, MDR, c'est mort de rire. Donc, décaté.
C'est lol. Décaté. C'est inquiète.
Bon, Guillaume, disais-je, je te vois inquiet ou rassuré, je ne sais pas, en train de dire, mais il est en train de faire mon portrait, il ne parle pas de moi. T'es caté, je te dis, nom d'une pipe. Revenons donc à l'inquiétude quant à l'invitation de Guillaume Le Bigot, ici présent, patron des Chalets Bérou et président des Diables Rouges. Mais Guillaume, c'est un taiseux, vous allez devoir meubler. Pas d'inquiétude, chers auditeurs, pas besoin d'aller chez Ikea. Je sais que Guillaume, expérience de patron et de président oblige, quand il faut y aller, il y va. Avec son style bien personnel, pas franchement racoleur, pas vraiment dans la séduction. Ce qui est sûr, c'est qu'il sait qu'il ne plaît pas à tout le monde. Il y a quelques années, il m'a dit, concernant son arrivée à la présidence des Diables Rouges, avant, Briançonnet que je connaissais tournait la tête sur trois. Je connais maintenant, depuis que je suis président, maintenant c'est 2 sur 3 qui tournent la tête, qui font semblant de ne pas me voir. Mais rien qui ne l'inquiète vraiment, faut faire le job, on ne peut pas plaire à tout le monde, et rira bien qui rira le dernier. Bon, Guillaume, trêve de citation, et tu vois, j'ai quand même parlé de toi. pour un patron d'une entreprise qui fait entre autres les charpentes, c'est bien normal. Guillaume, bienvenue au Coq à l'âne Briançonnais.
Merci. C'est comme disait Coluche, j'ai vu le couvreur, il m'a parlé de
voilà.
toi. Absolument, voilà. Donc voilà pour le portrait de Guillaume. Bon, alors, un petit mot, évidemment, avec Jean-Paul. On va commencer cette émission avec le sport. On va parler hockey.
Ben oui, on peut en parler d'entrée, oui, on habillera Guillaume ultérieurement, mais là il y a déjà pas mal de choses à dire. Il a pas de chance Guillaume, parce que c'est, je pense, pas facile d'être président des Diables Rouges, ça c'est évident, des Diables Rouges, des Diables Verts, des Diables Jaunes parfois, mais il a pas de chance cette semaine parce qu'il vient de subir deux échecs d'affilée avec une équipe qui est pourtant très bonne, moi je la trouve très bonne, je suis un fan de hockey, je pense en avoir vu quelques milliers de matchs. Manque de chance, il y a une finition qui échappe au dernier moment, il domine, mais il ne gagne pas. Est-ce que tu es d'accord avec cet état d'esprit?
Oui, sur le papier on est une bonne équipe, c'est vrai qu'il joue bien mais il ne marque pas et on n'y arrive pas et ça devient compliqué et ça devient même inquiétant.
Oui, ça devient d'autant plus inquiétant parce que pour les non-fans de hockey, mais qui s'intéressent quand même un petit peu au hockey à Briançon, on ne peut pas éviter le hockey, il faut dire et rappeler qu'il y a 14 équipes en division 1 et qu'il faut impérativement, avant la fin des matchs aller-retour, être dans les 8 premiers pour pouvoir continuer. Manque de chance, Briançon est 11e, je crois.
Oui, on est 11e, oui.
11e, et surtout, il y a le 10e, le 9e, le 8e sont en train d'échapper un petit peu. Donc là, on avait un point d'écart. Je rappelle qu'une victoire, c'est 3 points. Et que là, maintenant, il y a 3, 4, 5 points d'écart avec les gens qui se bagarrent pour cette fameuse et inévitable 8e place.
Oui, la saison est longue.
Pas très longue en D1. On a
beaucoup moins.
Oui, on a 26 matchs, alors qu'en Magnus, ils en ont 44. Donc, on a déjà joué 10 matchs, et c'est pour ça que c'est inquiétant.
Moi, je voudrais revenir un petit peu en arrière, Jean-Paul. Ouais. Je voudrais qu'on revienne un peu sur le Grand Briançonnais. Et puis la chute. Comment aujourd'hui, avec le recul, tu peux analyser cette chute de Briançon?
On a tout gagné et donc c'est le seul sport, le hockey sur glace, quand tu gagnes tout, tu gagnes rien financièrement. Oui. Tu fais que perdre de l'argent.
C'est un vrai problème.
Voilà. Et donc on n'est pas le seul club à qui c'est arrivé. Et surtout à Briançon, on était en sur-régime. Hein, parce qu'on est dans un petit département, on a quand même. Même si les pouvoirs publics nous aident beaucoup, la ville nous aide beaucoup, mais on fait avec nos entreprises. Et donc on était vraiment au maximum de nos capacités. Et ça devait bien sûr exploser. Et si ça n'avait pas explosé en 2014 ou 2015, ça aurait explosé l'année d'après, parce qu'avec la formule de Magnus aujourd'hui, c'est encore plus dur. Ouais, et les budgets sont encore plus serrés. Et il n'y a bientôt plus que des grosses équipes, deux grosses villes. Voilà.
Oui, on peut rappeler, Guillaume, qu'en Magnus, il y a 44 matchs, c'est-à-dire ils ont deux matchs par semaine. Alors qu'en Division 1, ce qui est notre cas, il y a un match par semaine.
Est-ce que le départ de Luciano Basile a été aussi un déclencheur?
Oui, bien sûr.
Basile. Et en plus, le fait de le transférer chez les voisins.
Il est parti à Gap. Ce qui est devenu compliqué, c'est qu'après, il y avait deux clubs dans les Hautes-Alpes. Donc ça partage des sponsors. Voilà, ça partage des sponsors publics et privés. Après, ce qui nous a fait mal plus que le départ de Luciano, c'est le départ l'année d'après d'Edo Terglave. Voilà, parce qu'on avait reconstruit avec Edo.
C'est vrai.
Il restait un an, il est de nouveau parti à Grenoble. Donc on est reparti à zéro. Voilà.
Mais ça faisait beaucoup.
Ça faisait beaucoup, mais de toute façon, on était en sur-régime, on avait un budget d'1,3 million. Moi, quand j'ai repris le club, il manquait 500 000 euros. Donc voilà, c'était plus possible. Alors moi, on m'a nommé pour rétablir les comptes. Donc ça fait pas toujours rêver sportivement, forcément.
C'est clair.
Et donc on a rétabli les comptes. Fin d'année, on est à l'équilibre. C'est pas arrivé depuis que je suis à la CSP. Et je pense pas que dans les années d'Alain Bérou, c'était aussi à l'équilibre. Donc on va être à l'équilibre financier, ce que nous a demandé la fédération. Parce qu'on paye des amendes tous les ans quand on n'est pas à l'équilibre. Donc moi, l'objectif sera atteint. Et c'est vrai que sportivement, quand on veut faire de l'équilibre financier, c'est plus dur. Par contre, en D1, on a quand même un beau budget, on a une belle équipe, et en ce moment, je suis pas du tout satisfait. Alors, c'est pas le match de Coupe de France qui va changer mon avis.
Alors, ce que je tiens à dire, c'est qu'on enregistre aujourd'hui, nous sommes mardi midi. Voilà. Oui. Voilà. Donc, le match, c'est ce soir. Donc, l'émission sera diffusée dimanche. Voilà. On croise les doigts, on espère que ça va bien se passer.
Le match de Coupe de France, ça va pas me faire changer mon avis, parce que dans tous les sports, vous regardez tous les petits clubs qui vont loin en Coupe de France, en général, ils descendent.
Oui, c'est vrai que c'est compliqué après la D1. Après, on l'a vu avec des clubs.
Comme j'ai déjà été le président de la descente en D1, je voudrais pas être le président de la descente en D2. Mais en ce moment, il y a vraiment le feu et quoi qu'il arrive ce soir en Coupe de France, il y aura des décisions de prise dans la semaine ou début de semaine prochaine, mais de toute manière, il va falloir du changement radical, parce que là, on va jouer les play-downs et pas les play-offs.
Changement voilà. Au niveau des joueurs, changement au niveau du staff, changement...
Il y aura du changement. Alors, c'est toujours plus facile de virer un entraîneur que 22 joueurs, mais il y aura du changement, c'est obligatoire, parce que on devait être dans les 4 premiers, on doit jouer le haut du tableau, on doit impérativement être dans les play-offs, et là, aujourd'hui, on se dirige tout droit vers les play-downs.
C'est d'autant plus étonnant que l'année dernière, c'était quand même une belle saison.
Oui, on a fini troisième, on avait fait le même démarrage, mais après, j'avais piqué une crise, on a renvoyé quelques joueurs et on avait gagné tous nos matchs sauf tour jusqu'à la fin de la saison. Par contre, on s'est arrêté en quart de finale comme l'année d'avant. L'année d'avant, très belle saison parce qu'on avait fini premier, mais on s'était aussi arrêté en quart.
Je fais juste une parenthèse non sportive. Je m'adresse à Guillaume, qui est aussi chef d'entreprise d'une grosse boîte. Comment on gère un club de sport par rapport à comment on peut gérer une entreprise, parce que on connaît ton, j'y fais allusion dans mon portrait, c'est quelqu'un qui peut prendre des décisions fortes, qui a une certaine autorité dans ta vie professionnelle, qui est connu pour ça. Est-ce que tu peux être avoir le même comportement dans un club de sport comme le Diable Rouge?
Moi, la seule différence, au Diable Rouge je suis président, mais c'est une SASP privée, on a plusieurs actionnaires, on est 10 actionnaires. Donc même si je suis président, je dois composer avec les actionnaires. Je peux pas prendre les décisions tout seul. Après, il faut bien qu'il y en ait un qui les prenne, parce qu'à la fin du compte, c'est toujours le président qui est responsable. Voilà. À l'entreprise Bérou, je suis associé avec Madame Bérou, avec Anne Bérou. On prend les décisions ensemble. Mais si je les prends seul et que je lui dis pas, ou celle-là on prend qu'elle me le dit pas, il n'y a pas de souci. On tranche dans le vif. Voilà. La seule différence avec un club de sport, c'est qu'on peut se laisser aller.
Parce que c'est que du sport.
Ouais, c'est que du sport. Le sport, ça enivre. Vous voyez tous les gros chefs d'entreprise qui ont eu des gros clubs de sport, ils ont tous été au tapis. Ils ont mis leur boîte au tapis.
Sans jeu de mots.
Mais je veux dire, mis à part Jean-Michel Aulas, j'en connais pas un autre.
Bernard Tapie.
Ah,
voilà.
Ah oui, non, mais.
J'en connais pas un autre qui a. Voilà, parce que on croit qu'on va gérer le club de sport comme sa boîte, mais en fait, on se laisse aller parce que l'entraîneur nous demande de racheter des joueurs, comme c'est le cas en ce moment en Briançon. Donc on se laisse aller, on reprend des joueurs. On augmente les salaires comme quand on avait été en CHL, et à la fin de l'année
le bilan est compliqué.
Voilà. Et puis alors, dans un club de sport, il y a des fois vous arrivez à rattraper le coup avec de nouvelles subventions, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais dans le temps on pouvait redemander des subventions publiques. Aujourd'hui c'est fini, les subventions publiques c'est de plus en plus rare.
Gérard, il met pas la main à la poche pour donner un coup de main de temps en temps.
Si.
Il a tenu ses objectifs. Au contraire, c'est le club de hockey où la ville donne le plus.
D'accord.
Magnus compris.
D'accord. Ah oui. Oui.
Voilà. Donc on
peut savoir combien ?
350 000 euros.
Ouais,
et ça, c'est
une belle somme.
À l'époque de la Mérou, c'était comme ça. Depuis que c'est Gérard Fromm, c'est comme ça. Et sans cette subvention de la mairie.
Ah, ce serait pas possible.
Ce serait pas possible à Briançon.
Est-ce que cette fameuse idée, ce serpent de mer qui existe depuis tant d'années, de fusion entre les deux, serait un jour envisageable ? À ton idée, hein ? À ton idée.
Moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois. À chaque fois qu'on m'invite, je le dis. C'est pas envisageable, c'est obligatoire.
D'accord.
Sinon, dans 10 ans, il n'y aura plus d'hockey dans les Hautes-Alpes.
Faut
être réaliste. L'économie a fait les réformes d'elle-même. Donc l'an dernier, Gap ont eu des problèmes financiers, ils en auront encore. Et je veux dire, c'est soit il y a un club en Magnus dans les Hautes-Alpes, soit il y en a un en D1, voire deux en D1, mais il n'y en aura pas deux en Magnus, ou s'il y en a deux en Magnus, il y aura des gros problèmes. Et aujourd'hui, on voit par exemple Sergi qui est en tête de D1, donc qui joue dans la patinoire. de l'équipe de France, 4000 places, Cergy-Pontoise, le bassin, si un jour vous allez à Cergy-Pontoise, c'est 10 fois les Hautes-Alpes.
Ah oui, oui,
voilà.
C'est impressionnant.
Après, on aura Évry, qui où il y a 800 000 habitants, puis vous avez Tours, où il y a 500 000 habitants, puis vous avez Bordeaux, puis vous avez... Voilà.
Et puis vous avez des clubs aussi qui montent.
Des exceptions.
On a vu Lyon, on a vu Bordeaux, mais maintenant on va voir Marseille.
Plus ça va, et plus effectivement les exceptions vont...
Les exceptions comme Chamonix, ça va être terminé dans pas longtemps, Strasbourg, ça va être terminé dans pas longtemps. Les petits clubs comme ça qui ont des petites patinoires où il y a 300-400 personnes tous les samedis, c'est terminé. La Magnus, avec l'ancienne version, on aurait pu rester deux clubs de haut niveau dans les Hautes-Alpes. Mais avec la nouvelle version de Magnus, avec les 44 matchs et les 12 équipes, juste 12 équipes. En plus, je pense qu'à terme, ça deviendra une ligue fermée. Il n'y aura plus personne qui descend, plus personne qui monte. Ce qui permet, comme ils font dans d'autres pays, ce qui permet de faire jouer des jeunes. Mmh. Parce que souvent, on ne fait pas jouer les jeunes parce qu'on a peur de perdre. Donc, ce sera très, très compliqué d'atteindre ce niveau-là. Et une fois qu'il n'y aura que des grosses villes, ce sera vraiment compliqué. Nous, on a les supporters qui n'ont pas forcément... On a la culture hockey. Après, il nous manque des entreprises. Et aujourd'hui, avant, le budget pour aller en Magnus, c'était 1 million. Aujourd'hui, les 5 premiers, ils sont à 2 millions.
Ouais.
Et puis voilà, puis Grenoble, ils sont à 2,5 millions ou 2,8 millions. Et puis voilà, ça ne s'arrêtera jamais dans ce sens-là. Parce qu'en fait, on a une concurrence européenne avec la Suède, la Finlande, le Danemark, la Suisse, où un budget, par exemple, comme Gap en Suisse, l'équivalent, à Gap, ils ont 1 million 3 ou 4. Bon, nous, quand on a joué en Ligue des Champions contre Genève, ils ont 16 ou 17 millions. Lausanne, ils ont 13 millions. Et puis vous allez à Berne, ils ont 35. Voilà. Et quand vous allez en Finlande et en Suède, c'est encore plus.
Oui.
Donc on a quand même une concurrence européenne.
Et on ne parle pas du Canada.
Voilà. Mais moi, pour moi, dans les 10 ans à venir, il y aura cette fusion. Sinon, il n'y aura plus de hockey d'un côté ou de l'autre.
Alpes.
Et quand je faisais les émissions il y a 2 ans avec le président de Gap, mon ami Escalier, il me disait non, mais nous, on va rester en Magnus et Bondéen. Et aujourd'hui, il ne dit plus ça du tout. Il dit qu'on est obligé, on sera obligé de se réunir. Et ça, c'est dans les 10 ans à venir.
Un dernier mot quand même pour les ambitions de cette année. C'est bien sûr de raccrocher, là, tout de suite, le bon wagon.
Oui, il faut qu'on raccroche le bon wagon. Aujourd'hui, on ne va pas dire qu'on doit finir dans les 4 premiers. Ça va être compliqué. Il faut finir dans les 8 pour arriver en play-off. Mais donc, on ne va pas se baser par rapport au match de samedi qui arrive parce que c'est Chambéry, ils n'ont qu'un point. Et eux, ils vont direct en D2. Mais on doit prendre des décisions rapides et radicales parce que sinon on va dans le mur. Donc c'est vraiment un moment charnière parce que c'est vrai que l'équipe est bonne, c'est vrai, mais il y a toujours un problème. Donc ils n'ont pas de chance. Moi quand je lis ça dans le journal qu'on n'a pas de chance, ça m'énerve.
Oui.
À force de pas avoir de chance, on est dernier. Donc,
voilà.
Les fausses excuses, j'ai horreur de ça. Et là, ce que je lis en ce moment dans le journal, ça me fatigue.
Je voudrais revenir quand même sur ce qu'a dit Guillaume. Il y a quelque chose de fabuleux à Briançon que. Pour une toute petite ville, il y a combien de spectateurs ?
On a cette année, donc la première année de D1, c'était dur, on avait 1000 personnes de moyenne.
Ouais.
L'an dernier, on a eu 1250. Cette année, on est à 1600.
Mmh.
Donc on a le plus gros taux de remplissage de D1, de loin. Mmh. Et je vous dis pas, en Magnus, on doit être le 3e, 3 ou 4e aujourd'hui. En Magnus, aujourd'hui, à Chamonix, il y a 400 personnes. À Strasbourg, il y a 800.
Ouais.
À Nice, il y a 700. On doit être le 4e aujourd'hui.
Alors comme quoi le bassin ne fait pas tout. Il va falloir démocratiser sérieusement le hockey parce que c'est bien beau de dire on va mettre le hockey dans les grandes villes comme Marseille, comme Nice, etc. Visiblement, ça prend pas plus que ça au niveau du public.
1600 personnes dans un bassin de population qui est celui de Briançon.
Ah, mais c'est énorme.
Mais
800 à Marseille ou à Nice,
c'est ridicule.
Les enfants, on retrouve pour une ville de 12 000 habitants, on retrouve le même nombre de spectateurs lorsqu'on est allé en 2010 à Paris, il y avait 1600, 1700 personnes.
Ouais.
À Méribel, pareil. À nouveau à Paris, pour une deuxième Coupe de France, il y avait 1800 personnes. Enfin, on voyait les gens de Rouen qui étaient habillés en jaune. Tiens, ça tombe bien.
Et longtemps, on n'a pas parlé des jaunes.
On rentrait à Bercy, on voyait du jaune. Puis on tournait la tête et on voyait du rouge. Mais c'était. Même les gens de Rouen disaient : mais vous êtes une ville de combien d'habitants ?
Et quand on mais tout le monde
on est là.
Voilà,
c'est un peu comme
oui, mais il, faut,
un peu...
il faut faire conserver la foi quand même, parce que ah ben, on peut aussi se fatiguer de tout
oui,
ça.
On est d'accord. Mais...
Oui, mais on a une culture. Hein.
Mais ce
voilà,
bien...
c'est tout.
Il y a une culture. L'avantage cette année, c'est qu'on a gagné, sauf on a perdu contre Marseille, c'était un échec. Mais on a gagné nos trois matchs à la maison. À Briançon, moi je leur demande toujours de gagner les matchs à Briançon, parce que c'est vrai que si on perd deux, trois fois de suite, les Briançonnais ils quittent l'arène. Voilà.
Ouais.
Après à Briançon, on a le public. Moi il y a souvent des spectateurs qui me disent on pourrait avoir des meilleurs joueurs, on pourrait, si on, mais je dis il n'y a aucun problème. On est 1600, vous payez 14 euros par match, si demain je vous fais payer 28, on va avoir une top équipe. Mmh. Sauf que je ne peux pas vous faire payer 28 parce que. C'est dur, on est dans un bassin où une match à 14 euros en famille c'est déjà très cher. Si vous voulez, on fait des abonnements pas chers, on essaye de faire des abonnements aux alentours de 250 euros qui n'est pas cher, mais c'est quand même cher pour les familles du Briançonnais. Voilà. Donc on peut toujours faire plus cher. Gap a essayé il y a deux ans de faire des abonnements à 400 ou je sais plus combien. Ça a été
ils
ont fait ça une année, puis l'année après
c'était un fiasco.
Voilà. Donc on peut toujours, mais il faut regarder dans le bassin dans lequel on est. Il faut regarder nos supporters et aujourd'hui, la première année quand on est descendu, c'était dur pour eux d'être en D1 parce qu'ils étaient habitués à la grande compétition Magnus. L'an dernier, on a passé le cap, on a vu des super matchs. En plus, le niveau de D1 c'est vraiment amélioré, donc c'est le niveau de la Magnus 2 il y a 4 ans. Et cette année, il y a du monde, ça joue très bien. Et aujourd'hui, c'est pas une fin en soi d'être en Magnus à Briançon, je veux dire. Faut mieux gagner des matchs en D1 qu'être dernier comme fait Strasbourg là depuis deux ans et gagner zéro match, parce que là pour le coup la patinoire elle est vide. Donc faut mieux gagner des matchs en D1 que les perdre en Magnus. Voilà. Le problème c'est qu'en ce moment on les perd en D1.
Allez, on marque une pause, on revient dans un instant dans ce Coq à l'âne numéro 604.